jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio. Juste pour faire du bruit.
Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Sainte Femme Radio Zone, le revue ménage s'estompe et la lune monte dans vos oreilles dans ce ciel tout noir et froid. C'est bientôt l'hiver, mais la lune, comme tous les mercredis soirs, resplendit dans vos oreilles sur 93.8 MHz, Sainte Femme Radio Zone. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 04 50 40 51 41 059 depuis la Suisse. Ça devient très compliqué de téléphoner en France. Les téléphones n'arrêtent pas de s'allonger. Mais ce qui pourrait s'allonger aussi, c'est pourquoi pas vos cadeaux, nos cadeaux. Alors n'hésitez pas, c'est bientôt Noël, c'est le moment des étrennes. Pourquoi ne pas profiter pour acheter une carte d'auditrice ou d'auditeur? Vous nous téléphonez au 04 50 40 51 41 pour la commander ou vous nous écrivez à Onde Femme Radio Zone, 7 boulevard Karl Vogt, 1250 Genève. Dans quelques instants au programme, c'est les informels, les nouvelles de la pleine lune, et puis Marjolaine qui s'agite et qui prépare son cœur, ses coups de cœur pour ce soir. Notez bien, ouvrez votre agenda, elle a plein de rendez-vous, plein de rencontres extraordinaires. À tout de suite pour les nouvelles. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Sainte Femme Radio Zone, nos nouvelles. Aux USA, alors que Clinton fête les anciens combattants, une affaire de viol et de harcèlement sexuel éclabousse l'armée américaine. C'est au centre d'entraînement d'Aberdeen, dans le Maryland, où 2000 soldats et 20% de femmes sont cantonnés, que a éclaté le scandale. À la fin de la semaine dernière, 19 femmes recrues féminines âgées de 18 à 21 ans ont déposé sur le bureau du général commandant le centre des plaintes pour viol et harcèlement sexuel. Elles accusent plusieurs instructeurs de leur avoir envoyé des lettres d'invitation sans équivoque. Certaines donc parlent même de viol. Tout cela, ça fait un petit peu éclaboussure au moment où, le 11 novembre, la fête des anciens combattants réunit le gratin de l'armée avec le président Bill Clinton. Une quinzaine de soldats ont donc été suspendus en attendant d'analyser les plaintes exprimées contre eux. Trois d'entre eux, un capitaine et deux sergents, sont d'ores et déjà passibles de la cour martiale. Le général Shadley, vétéran du Vietnam, a confié en 31 ans de carrière: c'est la plus dévastatrice affaire que j'ai connue. L'état-major s'inquiète. Il craint que le scandale décelé à Aberdeen ne s'étende au pays tout entier. Nous allons minutieusement chercher si d'autres cas semblables ont pu se produire dans l'ensemble du dispositif d'entraînement, a déclaré un chargé de l'armée de terre au secrétariat à la Défense. Un numéro de téléphone a été diffusé pour recueillir les plaintes. Lundi matin, on enregistrait déjà 1700 appels de femmes soldats, dont 196 ont été examinés avec énormément d'attention. Il semble bien que ces plaintes soient fondées. Toutes les recrues féminines ayant séjourné depuis 2 ans dans le centre de Maryland seront interrogées. Le sergent instructeur Delmar est pour l'instant le plus visé dans ce scandale. Non seulement il aurait violé plusieurs femmes dont il avait la charge, mais il les aurait menacées si elles se plaignaient. Une des victimes raconte qu'il lui a soufflé « Si on apprend ça, je te tue ». Delmar Simpson est maintenant dans un cachot et depuis lundi à Aberdeen, on conseille aux recrues féminines d'éviter tout contact personnel avec les gradés. Pour certains, c'est aussi l'occasion de remettre en question la présence des femmes dans l'armée américaine. Toujours aux États-Unis, la Californie a voté contre les programmes favorables aux minorités. Les Californiens ont approuvé, avec une confortable majorité de 56% des suffrages, la plus controversée des initiatives référendaires mises aux voix. La fameuse proposition 209, ou le California Civil Right, initiative qui inscrit dans la Constitution californienne la prohibition de la discrimination du traitement préférentiel par l'État et autres services publics. Contre, dans ce terme, discrimination traitement préférentiel. Ce n'est pas la discrimination contre les Noirs et les femmes qu'il faut comprendre, mais bien contre les Blancs, les hommes blancs qui se sentent menacés par ce qu'on a appelé les lois positives ou les lois des quotas. Les habitants du Golden State entérinent donc le démantèlement de ces programmes d'action affirmative, positive, affirmative action, qui visaient depuis 30 ans bientôt à réduire l'inégalité des chances pour les minorités ethniques et raciales ainsi que pour les femmes. Les programmes fédéraux restent effectifs, mais puisqu'en matière législative, la Californie sert souvent d'exemple, il est possible que ces programmes soient mis en question dans tous les États américains. Ce programme d'encouragement visait donc à ce que le secteur public accorde un pourcentage de marché ou de contrat des entreprises gérées par des minorités ou par des femmes. Ils incitent également les instances gouvernementales à embaucher, promouvoir des membres des groupes de population sous-représentés, les universités à ouvrir des programmes, des bourses, etc., toujours par rapport aux minorités et les femmes. La proposition 209 veut donc en finir avec ce qu'il a appelé cette discrimination inversée, perçue comme un favoritisme vis-à-vis des défavorisés, qui justement sont défavorisés. C'est bien le cas et ça le reste toujours. En tout cas, on peut estimer que c'est une victoire des hommes blancs, comme même si un des promoteurs du référendum pense que c'est plutôt pour aider toute la Californie. Nous en doutons fortement. Les opposants, en tout cas, à cette loi 209 craignent que ce vote signifie un retour à la discrimination sexuelle pour les femmes, ainsi qu'à la discrimination raciale pour les minorités, comme pour les Noirs ou les Chicanos, qui jusqu'à présent n'ont pas non plus fait une percée spectaculaire dans l'État de la Californie. Au Yémen, les femmes s'organisent de plus en plus pour se faire élire. Elles se mobilisent massivement en vue des élections législatives d'avril prochain. Surprise, la plupart des partis sont sensibles à leurs revendications, pour des raisons électorales sans doute, mais c'est en tout cas la première fois. Le Parlement, jusqu'ici, était un sanctuaire masculin au Yémen. Il s'ouvre à l'autre moitié de la population. Depuis quelques mois, les organisations féminines présentes sur tous les fronts mènent campagne pour la participation des citoyennes aux élections législatives d'avril 97. Elles ont d'ores et déjà enregistré des résultats spectaculaires. En 2 mois, 45% des femmes en âge de voter se sont inscrites sur les listes électorales, alors qu'auparavant, il n'y en avait que 15 ou 18% qui étaient inscrites. À travers l'Union des femmes yéménites et le Comité national des femmes ou encore des organismes publics ou économiques, elles organisent de nombreux débats, meetings, où elles tentent de rallier à leur cause les divers partis. Et de fait, soit par convergence de vues, soit par calcul purement électoral, ceux-ci adhèrent en général à leur demande promouvoir la représentation des femmes sur les listes électorales. Sur le rôle général des femmes dans la vie politique, on distingue au Yémen 3 grandes tendances reflétant la position des 3 principales formations du pays. Le Congrès populaire général, le Parti socialiste yéménite et le Rassemblement yéménite pour la réforme. Le Congrès, la plus importante formation du pays, est aujourd'hui le plus favorable à la cause des femmes et plus que tout autre résolu à s'engager à leur côté. Cela constitue un tournant important dans sa politique car avant la réunification des deux Yémen en 90, il s'opposait à leur entrée au Parlement sans toutefois l'afficher ouvertement. Parti unique au pouvoir à l'époque, il se contentait de dire que selon le Haut Comité électoral et en conformité avec l'esprit de la loi, rien n'interdit aux femmes d'être électrices ou élues. Cependant, sur ces 300 candidats désignés, il n'y a que 6 femmes et une seule a été élue. Aujourd'hui, donc, le Congrès populaire général leur reconnaît du moins théoriquement le droit d'occuper toute fonction publique sans exception. Mais avant toute chose, ce parti sait que la candidature des femmes aux législatives est devenue une carte gagnante, tant sur le plan politique que pour gonfler ses propres rangs. Aussi est-il allé assez loin, plus loin que les autres formations, les invitant à établir des quotas de candidates. Le Parti socialiste, lui, a été le premier à encourager les femmes à participer à la vie politique. Cependant, il considère que dans la période difficile qu'il traverse aujourd'hui, il a besoin d'une représentation massive d'hommes pour obtenir les soutiens nécessaires, en particulier dans les provinces du Nord, qui sont, soi-disant, traditionnelles et plus rétrogrades que le Sud. Il refuse donc d'entrer dans la question des quotas. La 3e grande formation, le Rassemblement yéménite pour la réforme, fait partie donc de la coalition au pouvoir avec le Congrès populaire. Il reconnaît en premier lieu aux femmes le droit d'entrer au Parlement et d'accéder à tous les postes de l'État et du gouvernement, à l'exception des fonctions de président de la République quand même, il ne faut pas exagérer. Le ministre de la Défense aussi doit être masculin. Ce parti justifie cette position en se référant, bien sûr, à la loi islamique. En second lieu, il dit fonder son action sur la réalité sociale. La majorité de la population yéménite, héritière de tradition, continue d'envisager la femme uniquement en tant qu'épouse et femme au foyer. Et il n'a pas envie que ça change. En tout cas, les observateurs de la scène yéménite sont très optimistes quant aux résultats. De nombreuses femmes devraient se porter candidates aux prochaines élections, d'autant que les accords conclus entre les organisations féminines et les divers partis, donnant-donnant, vous incluez des femmes et on vous soutient, sont plus solides que les alliances entre formations politiques classiques. Au Japon, les jeunes filles se libèrent, entre guillemets, en tout cas, ce qu'on observe, c'est un essor fulgurant de la prostitution des jeunes filles, qui semble être lié étrangement à l'essor fulgurant parmi les jeunes de téléphones portables et même de pagers, conjugué au développement de clubs, de rencontres, de messageries vocales, de téléphones clubs, dont on trouve les numéros dans les revues de jeunes ou même sur des paquets de mouchoirs distribués dans la rue. Tout cela a donné naissance à une nouvelle forme de prostitution juvénile, baptisé de l'euphémisme « soutien financier à la sociabilité », que c'est joli. Celles qui s'y adonnent ne sont en rien des filles perdues ou des droguées en manque, mais des lycéennes ordinaires qui vendent leur présence, un dîner, un moment dans un karaoké club, à des hommes, bien sûr, beaucoup plus âgés qu'elles. En dépit de leur âge, elles connaissent la loi de l'offre et de la demande. Elles sont tout à fait d'accord de raconter ce qu'elles font, mais bien sûr, il faut payer. La plupart ont commencé par curiosité, elles ont appelé des téléphones clubs où les hommes attendent l'appel d'une femme, puis elles sont allées au karaoké, se sont laissées caresser la poitrine pour 500 à 1000 francs français, puis elles ont franchi le pas et sont allées dans ce qu'on appelle les love hotels, mon Dieu que c'est joli, pour couples sans bagages où le prix varie en fonction du temps d'occupation de la chambre, en fait un bordel. Désormais, elle lève, si on peut dire, ses clients dans la rue. Pour faire de l'argent de poche, elle est au restaurant avec des copines, à Disneyland, s'acheter des vêtements, des accessoires griffés. Ce phénomène de la prostitution enfantine ou donc de la sociabilité, de l'aide à la aux finances pour la sociabilité, reste quand même un petit peu marginal, mais il touche quand même de 4 à 8% des lycéennes. En termes de la loi, au Japon, avoir des relations sexuelles avec un enfant de moins de 13 ans est considéré comme un viol, mais à 16 ans, une fille peut se marier, il n'y a donc pas de prostitution enfantine. Et si la police surprend une lycéenne entrant dans un love hotel, elle ne peut que prévenir les parents. Le comportement des lycéennes fripone, si on peut dire, est symptomatique à la fois de l'existence d'une prolifique marché du sexe au Japon et d'une évolution des mœurs. Pléthore de revues spécialisées, de publicités distribuées dans les rues, déposées dans les boîtes aux lettres, des immeubles, la caractéristique de l'industrie du sexe au Japon, qui représente quand même 1% du produit national brut, c'est que c'est très facile. Il n'est pas nécessaire aux hommes de se cacher pour satisfaire leurs pulsions et leurs fantasmes. Le fantasme des lycéennes a commencé de façon assez terrible puisque ce marché du fantasme de la lycéenne en uniforme a commencé donc sur le marché du sexe dans les années 90 par la vente des sous-vêtements et des culottes usagées. Et oui, il y a un grand marché pour ce genre d'objets. Enfin, selon un sociologue, les jeunes japonaises ne nourrissent guère d'illusions sur une société qu'elles qualifient de société du mensonge. Pour elles, elles savent qu'elles seront discriminées dans le travail, mais aussi qu'elles sont convoitées et elles cherchent à tirer profit de cette demande. L'homme adulte est pour elles le symbole de la société hypocrite à manipuler. Le Bureau international du travail veut éliminer l'esclavage, la prostitution et le travail forcé des enfants. Il vient de donner un volumineux rapport qui explique la situation sur le marché du travail. 250 millions d'enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent, selon la nouvelle estimation publiée à Genève. Parmi ces 250 millions d'enfants, 120 millions travaillent à temps plein, 130 millions à temps partiel. Le travail des enfants, c'est donc ce rapport rapport publié par le BIT, l'intolérable en point de mire. D'autres enfants travaillent dans nombreux pays industrialisés, notamment aux États-Unis, en Italie, au Portugal et même au Royaume-Uni. Selon le rapport, l'exploitation sexuelle commerciale des enfants s'intensifie. Environ 1 million d'enfants nazis sont victimes du commerce sexuel. De plus en plus d'enfants sont achetés, vendus au-delà des frontières par des réseaux organisés. L'esclavage existe toujours. Des propriétaires achètent les enfants de leurs locataires ou des employeurs payent d'avance des familles afin d'employer leurs enfants dans des activités de tissage, dans les verreries ou encore dans la prostitution. Des enfants sont contraints de travailler pour acquitter une dette contractée par la famille. Une enquête menée aux Philippines montre que 60% des enfants qui travaillent sont exposés à des risques chimiques et biologiques et que 40% sont victimes de blessures ou atteints de maladies. Les enfants employés en Inde dans l'industrie et l'agriculture grandissent moins vite, pèsent moins lourd que les enfants scolarisés. Le BIT va jusqu'à évoquer le cas d'enfants âgés de 3 ans seulement qui travaillent dans des fabrications d'allumettes exposées aux poussières, à l'amiante et au phosphore rouge. Non seulement les enfants travaillent et se prostituent, mais ils sont également les premières victimes des conflits armés. La Mozambicaine Gracia Marchel a déposé un rapport à l'ONU. Grâce à un appui suisse, elle a fait le tour des points chauds. Au cours de ces 10 dernières années, plus de 2 millions d'enfants ont perdu la vie dans des guerres. Contre 4 à 5 millions ont été estropiés et 1 million de gosses sont devenus orphelins. Ils ont été séparés de leurs parents. Tel est le cri d'alarme lancé à Zurich par Gracia Machel, l'ex-épouse de Feu Samora Machel, premier président du Mozambique. Elle est aujourd'hui la compagne de Nelson Mandela. Elle a été chargée par les Nations Unies de faire une étude sur les enfants victimes des conflits armés. Traduisant en actes concrets notre indignation morale et en leur donnant une place centrale partout où l'on négocie sur les droits internationaux, plaide Gracia Machel. Elle est engagée, c'est une femme engagée de vieille date pour les causes politiques et humanitaires. Elle a fait partie du mouvement de libération mozambicain. Elle est devenue en 75, à l'âge de 29 ans, ministre de l'Éducation. Elle a notamment œuvré pour augmenter le taux de scolarité des enfants du Mozambique. C'est son engagement donc qui lui a valu cette nomination onusienne pour faire cette étude sur les conséquences des guerres sur les enfants. On voit qu'elles sont terribles. Elle appelle en tout cas tous les gouvernements et les groupes à renvoyer immédiatement tous les mineurs enrôlés dans les armées. En aval, elle demande que les États limitent le commerce d'armes avec les pays où ont lieu des conflits et s'engagent plus activement dans la diplomatie préventive. En Suisse, les femmes se préparent à investir l'exposition nationale de 2001. Une nouvelle association a été créée qui tentera entre autres de réaliser les nombreuses résolutions approuvées lors du 5e congrès suisse des femmes. L'association Femmes 2001 s'emploiera au premier lieu à marquer de manière visible la présence des femmes à l'Expo 2001. C'est ce qu'affirme Regula Ernst, présidente de cette société. Elle est également membre du législatif de la commune de Mouri, près de Berne, démocrate du centre. Regula Ernst cite les priorités de la nouvelle association, amélioration des structures d'accueil pour les enfants, instauration d'une assurance maternité pour toutes les femmes, qu'elles travaillent ou non, salariés dans les limites bien sûr de la situation économique actuelle, partage du deuxième pilier en cas de divorce, lutte contre la violence dont sont victimes les femmes et des enfants, amélioration de la situation des femmes migrantes, libre circulation des personnes dans l'Europe. Femmes 2001 ambitionne aussi de mettre sur pied une session des femmes en mai 98 qui coïnciderait avec le 50e anniversaire de la relance de la revendication de l'égalité politique entre hommes et femmes. Autre comité, un comité de femmes qui prône le oui à la loi sur le travail. Étrange, mais tout existe dans ce bas monde. Ah oui, au nom de l'égalité, il faut bien sûr que les femmes puissent travailler la nuit. Ça leur permet de faire des carrières. On ne savait pas que, en général, le travail de nuit, en général, ne mène pas à grand-chose. Mais pour les femmes, semble-t-il, ça leur permettrait de devenir cadres. On ne connaît pas beaucoup de cadres qui travaillent la nuit, mais enfin. Alors, d'après ce comité, il faut mettre un terme à la mise sous tutelle des femmes et dire oui à la révision de la loi sur le travail qui constitue un grand pas en direction de l'égalité des sexes. Ce comité des femmes rassemble plus de 300 femmes, bourgeoises bien sûr, de toute la Suisse. Ils ont présenté leurs arguments à Berne. Il comprend entre autres la députée bernoise UDC Ursula Haller, ainsi que la PDC saint-galloise Monica Marty et bien sûr l'ineffable conseillère nationale libérale vaudoise Suzette Sandoz. On n'est pas sûr que toutes ces femmes connaissent ni le travail, et en tout cas pas le travail de nuit. Dans l'industrie, bien sûr. Une série de nominations de femmes à des positions importantes, c'est assez rare pour qu'on puisse le nommer. Ainsi, à Genève, c'est Christine Müller, jeune femme qui vient d'être nommée pour diriger le musée de la Croix-Rouge. C'est un geste relativement courageux. Le conseil de fondation a décidé de donner un coup de fouet au musée en choisissant donc cette jeune femme, Christine Müller. Il fait un pari audacieux. Autre nomination également importante, puisqu'on a nommé pour la première fois une femme pour présider le conseil de la recherche du Fonds national suisse. Le Fonds national suisse qui alloue les principaux financements à la recherche scientifique et sociale en Suisse. C'est donc la biologiste professeure lausannoise Heidi Diegelmann qui sera la première femme à présider le conseil de la recherche du Fonds national. C'est bien la première fois, mais il faut dire que depuis quelque temps, le Conseil national de la recherche, le Fonds national de la recherche scientifique, tend à promouvoir les femmes, puisqu'il a même créé un fonds, le fonds Marie Heim Vöcklin, qui était la première femme médecin en Suisse, qui est destiné à offrir des bourses et à permettre la réintégration professionnelle des femmes scientifiques qui ont momentanément cessé de travailler. Cependant, pour Heidi Diegelmann, il faudrait faire beaucoup mieux, les aider à rester dans le circuit en leur offrant des postes à temps partiel, en améliorant les infrastructures nécessaires à l'organisation de la vie familiale durant les années critiques, et pourquoi pas, ça c'est moi qui le dis, à promouvoir un peu mieux le partage des tâches domestiques entre hommes et femmes. Autre nomination également, celle à la tête du Parti socialiste, une femme peut-être, Barbara Ehrig-Bieder. C'est en tout cas ce que le comité central du Parti socialiste a proposé. C'est ce nom que le comité central du Parti socialiste proposera au congrès à Davos pour remplacer le secrétaire général André Daguet. C'est donc la conseillère nationale Barbara Ehrig-Bieder qui sera très certainement la première femme à devenir secrétaire générale du Parti socialiste suisse. Tel est en tout cas le désir exprimé par le comité central du parti. Les socialistes ont également discuté d'une initiative sur l'assurance maladie et de l'avenir du secteur public. Enfin, une autre nomination, celle-ci plus controversée, d'une socialiste également au Grand Conseil. Elle devient présidente du Grand Conseil. C'est Christine Sayeg qui est donc devenue présidente contre l'avis de l'Alliance de gauche et des Verts et avec le soutien des partis bourgeois. C'est un peu dommage. L'avocate Christine Sayeg, donc la nouvelle présidente du Grand Conseil à Genève, elle représentera Genève, dirigera les débats du Parlement pendant un an. Elle est la 7e femme à accéder au perchoir. Elle a été élue par 60 députés sur 92, un score moyen dû au fait donc que cette socialiste a été boudée par l'Alliance de gauche et les Verts, mais soutenue par les partis bourgeois, bien sûr par les socialistes. Quelle alliance! En fait, cette bisbille vient du fait que l'Alliance de gauche devrait être présidée avec sa candidate Liliane Yonner, qui aurait dû être nommée à la vice-présidente l'année dernière. Mais l'entente de gauche ne voulait absolument pas de l'alliance, même si par sa présence, par le nombre de députés, elle avait le droit, l'alliance de gauche avait le droit à cette position. Et donc, il y a eu toute une série de magouilles pour que Christine Sayeg soit nommée il y a une année à la vice-présidente et donc aujourd'hui à la présidence. C'est dommage que des femmes entrent dans ce genre de politicaille qui fait honte à tout le monde, à la gauche et aux femmes en particulier. C'était les nouvelles sur la pleine lune 93.8 MHz. Je termine par quelques rendez-vous. Le mardi 19 novembre, le collectif du 14 juin se réunit. Ça se passe au 6 Terreau du Temple. On parlera de la problématique des services publics, la question du voile, de l'ouverture d'un PIPSO à Genève, affaire à suivre. Et puis aussi, on commencera à préparer le 8 mars. D'ailleurs, à ce propos du démantèlement des services publics, le collectif du 14 juin a distribué dans les différentes manifestations des fonctionnaires un tract en rose qui montre que, en fait, le démantèlement social de l'État frappe très spécialement les femmes. En effet, les restrictions budgétaires de l'État touchent des secteurs dans lesquels les femmes sont majoritaires à avoir un emploi, la santé, le social, l'éducation, et donc les femmes subissent des graves conséquences si elles ne résistent pas à ce démantèlement. Il faut savoir également que l'État est souvent le principal employeur des femmes, qu'il offre des conditions de travail relativement correctes, en tout cas plus correctes dans le privé, et que surtout à l'État, la discrimination en ce qui concerne le salaire entre hommes et femmes est la plus faible. C'est là qu'il y a un minimum d'égalité, travail égal, salaire égal. D'autres avantages également, si on peut dire, sont donnés aux femmes, un véritable congé maternité, des congés pour enfants malades, etc. Une transparence des salaires, tout cela peut être mis en question si l'État est démantelé, si la fonction publique est démantelée et si on remplace par exemple le salaire qui est le salaire à la fonction par le salaire au mérite. Il faut également savoir que la dégradation de la prise en charge publique retombe également sur les femmes, puisqu'une partie du travail, si on peut dire domestique et familial, qui avait été pris en charge par l'État à travers les crèches, à travers la garde des personnes âgées, à travers également l'hôpital, retombera, si ces services disparaissent, sur le travail gratuit des femmes qui le feront donc, comme elles l'ont toujours fait, bénévolement, dans leur famille. C'est pourquoi le collectif du 14 juin dit non à la discrimination. Non au démantèlement de l'État. Il en profite également pour dire non à la révision sur la loi sur le travail et appeler à une manifestation le 15 novembre à Genève, un chahut de nuit pour dire non à la loi sur le travail. C'est à 21h30 au rond-point de Plainpalais, donc contre le travail de nuit. Et n'oubliez pas que le 1er décembre, il faut voter non. Autre rendez-vous aussi à rappeler, c'est pas tout de suite, mais notez-le déjà, que le 30 novembre aura lieu la 5e rencontre internationale des femmes en noir. Les femmes en noir sont donc ces femmes qui, dans toute l'Europe, Grèce, Italie, Turquie, Espagne, et même au-delà en Israël et USA, protestent contre la guerre, entre autres contre la guerre en ancienne Yougoslavie, mais également contre la guerre dans les territoires occupés. Il y aura la projection d'un film sur une rencontre qui a rassemblé des femmes du monde entier pour dire non à la guerre en Yougoslavie. Et ce film aide à mieux comprendre, à mieux soutenir les femmes en noir de Belgrade, de Zagreb et de Bosnie. Cette rencontre, donc 5e rencontre internationale des femmes en noir, a lieu le samedi 30 novembre à 17h à la salle des conférences du Bureau de l'égalité de rue de la Tannerie à Genève.
Déconnecté. Regarder la porte, voir des feuilles mortes. Déconnecté, déconnecté.